Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous en sommes à la fin du chapitre 4 de Saint Jean, sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église des 5 premiers chapitres. Nous en sommes à la page 52, donc versets 39 à 42 du chapitre 4 de l'Évangile selon Saint Jean. Donc j'ai déjà commencé ces commentaires, je vais continuer, sans doute terminer, j'espère, le chapitre 4 de Saint Jean aujourd'hui, peut-être même commencer le chapitre 5. Voilà donc ces quatre versets, 39, 40, 41, 42, chapitre 4. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui sur la parole de la femme qui lui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Les Samaritains étant donc venus auprès de lui, le prièrent de demeurer chez eux, et il y demeura 2 jours. Il y en eut un bien plus grand nombre qui crurent en lui à cause de sa parole. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause que vous nous avez dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc j'ai déjà expliqué que ce fut sur le seul témoignage de cette femme et sans avoir vu aucun miracle, que les Samaritains sortirent de la ville et prièrent Jésus de rester au milieu d'eux. Que les Juifs, au contraire, témoins de tant de miracles, non seulement ne cherchèrent point à le retenir au milieu d'eux, mais mirent tout en œuvre pour le chasser de leur pays. Et ils vont le crucifier. Alors voyons un petit peu les autres commentaires des pères. Les Samaritains connurent donc Jésus-Christ d'abord par ce qu'ils entendirent raconter dans lui, ensuite parce qu'ils virent de leurs yeux. Encore une fois, pour insister sur ce point, les Samaritains n'avaient assisté à aucun des miracles de notre Seigneur, puisqu'ils vivaient séparés des Juifs. Et malgré cette absence de miracles, eh bien, ils vont croire sur la parole de Sainte Photine, la Samaritaine, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Il tient encore aujourd'hui la même conduite à l'égard de Dieu, à l'égard, pardon, de ceux qui sont en dehors de l'Église, qui ne sont pas encore chrétiens. Ce sont les amis de Jésus-Christ, déjà chrétiens même, qui commencent à le faire connaître. Et c'est sur le témoignage de cette femme, c'est-à-dire de l'Église, qui viennent le trouver. Ils croient donc d'abord par l'intermédiaire de cette femme, mais c'est sur le témoignage même du Sauveur, un bien plus grand nombre, sur le témoignage même du Sauveur, un bien plus grand nombre croit, et d'une foi plus parfaite, qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va souvent, on voit très bien dans ce passage de l'Écriture Sainte, va utiliser des instruments. Ici, il va utiliser Sainte Photine comme instrument pour convertir la ville, cette ville de Samarie. C'est la même chose pour nous. Si nous agissons comme chrétiens, si nous pensons comme un chrétien, si nous nous comportons comme un catholique, dans notre milieu professionnel, notre milieu de vie sociale, notre milieu familial, eh bien, beaucoup de gens peuvent, avec la grâce du bon Dieu, entendre parler de Dieu simplement, non pas en voyant des miracles, mais en voyant la façon dont ils vivent. Rappelez-vous, les premiers chrétiens, on disait d'eux, voyez comme ils s'aiment. Et donc, il est important de donner cet exemple. On ne convertit pas les gens beaucoup par la prédication. Ça peut préparer les choses, surtout pour nous prêtres. Mais on convertit les gens surtout par notre façon de penser, par notre façon d'agir, par notre témoignage de notre vie de tous les jours. C'est par le témoignage de la vie, de notre vie de tous les jours, qu'on peut amener les gens à se poser les bonnes questions pour qu'ils trouvent notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu ça très souvent. Donc il ne faut pas se décourager, même si on a l'impression d'être très très isolé. Encore une fois, le bon Dieu aujourd'hui ne convertit plus les gens et des grands miracles. On pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas des miracles? Ne permet-il pas qu'il y ait des grands miracles qui soient faits pour convertir tout le monde? Malheureusement, les cœurs sont devenus tellement durs, tellement secs, que même avec des miracles, je suis même pas sûr que les gens se convertiraient. Est-ce que les gens modernes se convertiraient si Dieu revenait pour faire des grands miracles visibles de tout le monde ici-bas sur la terre? J'en suis même pas convaincu. Parce que le matérialisme, le naturalisme ont desséché tellement les cœurs et les intelligences que ces intelligences deviennent incapables de chercher le vrai. Ils ne cherchent même plus le vrai. Le vrai ne les intéresse plus. Quand je le vois souvent dans certaines discussions avec des modernistes, quand je leur dis, mais ce que vous dites s'oppose à la tradition de l'Église. Je voudrais vous montrer un texte infaillible de l'Église des années, par exemple, du début du XXe siècle, un texte de Saint Pie X. Vous allez voir comment l'Église, de façon infaillible, enseignait à l'époque, et puisque c'est infaillible, c'est toujours valable aujourd'hui. Et très souvent, la réponse est la même. Cela ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à voir ces textes. Je ne veux même pas les lire. Ça ne m'intéresse pas parce que ces textes sont beaucoup trop anciens. Nous sommes en 2022. Les textes écrits il y a plus de 100 ans ne m'intéressent pas. Et on a beau essayer de leur expliquer, mais ce sont des textes infaillibles, ça m'est complètement égal, ça ne m'intéresse pas. Les gens ne sont plus intéressés par la recherche de la vérité, puisque la vérité, c'est eux qui la font. Ils ne croient plus en l'objectivité de la connaissance, ils ne croient plus en l'objectivité de la vérité, et donc ne cherchent même pas à découvrir cette vérité pour s'y soumettre, parce que c'est eux-mêmes qui font leur propre vérité. Mais comme la vérité est devenue complètement subjective pour eux, la vérité change tout le temps. Dans le texte d'Origène, en bas de cette page 52, il est impossible que l'effet produit sur l'intelligence, par ce que l'on voit soi-même, ne soit pas supérieur à l'impression produite par le témoignage d'un témoin oculaire. Il vaut beaucoup mieux avoir l'espérance que la foi pour guide. C'est pour cela que les habitants de cette ville croient non seulement sur un témoignage humain, mais sur le témoignage de la vérité elle-même. Donc, la foi va permettre l'espérance, mais l'espérance est d'une certaine façon encore plus élevée que la foi. C'est pour ça qu'Origène dit qu'il vaut mieux avoir l'espérance que la foi pour guide, parce que l'espérance va nous obliger à garder les yeux levés vers le ciel. La foi nous est donnée pour croire, l'espérance nous est donnée pour prier. Bon. Et pour pouvoir prier, il faut déjà avoir la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas prier, très difficilement. Donc la foi, la première étape, l'espérance est la deuxième étape, et la troisième étape, évidemment, sera l'accomplissement de la vertu de charité. Donc ne pas oublier cette phrase, l'espérance, il vaut mieux avoir l'espérance que la foi pour guide. Donc si j'ai l'espérance, je peux arriver à ne pas me décourager beaucoup plus que si je n'avais que la foi pour guide. Donc l'espérance va rajouter une deuxième vertu théologale à la première. Passons à la page 53 avec un petit commentaire très court des Pères sur les versets 43-45 du chapitre 4 de Saint Jean. 2 jours après, Jésus partit de là et s'en alla en Galilée. Car Jésus lui-même a rendu ce témoignage qu'un prophète n'est point honoré dans sa patrie. Lors donc qu'il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem au jour de la fête, car eux aussi ils étaient allés à la fête. Une remarque des pères ici intéressante, l'habitude et la familiarité engendrent ordinairement le mépris. Pour cela que l'Évangile dit, un prophète n'est point honoré dans sa patrie. Nous voyons ici en figure que lorsque les nations auront été affermies dans la foi par les deux préceptes de la charité, Jésus-Christ, à la fin du monde, retournera dans sa patrie, c'est-à-dire vers les Juifs. Il y a donc une allusion à la conversion au moins d'une partie du peuple juif à la fin des temps. Et cette phrase, un prophète n'est pas honoré dans sa patrie, était vraie du temps de notre Seigneur, est encore plus vraie aujourd'hui, on s'en rend bien compte. La difficulté qu'on a d'arriver, par exemple, à faire un peu d'apostolat dans des milieux qui connaissent un peu trop bien le prêtre, dans les milieux familiales, par exemple, c'est très difficile de faire un apostolat souvent. Parce que cette familiarité qui existe évidemment par définition dans une famille, cette familiarité entraîne une espèce de manque de respect justement pour la personne du prêtre. Dans la même famille, les gens vont voir beaucoup plus l'homme que le prêtre. Ils vont voir l'homme plutôt que le sacerdoce qui est caché derrière l'homme. Alors, il ne faut pas se décourager. Et il est parfois plus facile de faire un apostolat en profondeur dans un milieu dans lequel le prêtre dans lequel il n'y a pas justement cette habitude de la familiarité. Familiarité empêche souvent le travail de se faire, le travail apostolique de se faire. Avançons avec les derniers versets de ce chapitre 4, versets 46 à 54. Jésus vint donc de nouveau à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait un officier du roi dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus venait de Judée en Galilée, il alla auprès de lui et le pria de descendre, de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier lui dit, Seigneur, descendez avant que mon fils meure. Jésus lui dit, allez, votre fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs vinrent au-devant de lui et lui annoncèrent que son fils vivait. Il leur demanda l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux et ils lui dirent, hier à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Votre fils vit » et il crut lui et toute sa maison. Ce fut là le second miracle que fit Jésus après être revenu de Judée en Galilée. Voilà l'extraordinaire foi de cet officier du roi, donc qui avait un fils malade à Capharnaüm et qui croit immédiatement à la parole que Jésus lui dit « Votre fils vit ». Donc il ne demande pas que le médecin divin vienne lui-même en personne soigner son fils. Il croit à la parole. Jésus lui a dit, votre fils vit, il y croit, et cela va entraîner la conversion sa conversion et la conversion de toute sa maison. Voyons un peu les commentaires des pères, la page 54. Donc, les pères expliquent que ce passage de l'Écriture sainte montre qu'il y a différents degrés dans la foi, comme dans les autres vertus qui ont leur commencement, leur progrès, leur perfection. La foi d'un néophyte n'est pas la même que la foi de quelqu'un qui est dans l'Église catholique depuis de longues années. Donc, on voit très bien, dans la vie spirituelle, il y a trois étapes. L'étape des commençants, l'étape des progressants, l'étape des parfaits. Ça correspond un peu aux trois étapes de la vie spirituelle. D'autres mots, la vie purgative, correspondant à l'étape des commençants, la vie illuminative correspondant à l'étape des progressants et la vie unitive ou mystique correspondant à l'étape des parfaits. Donc la foi de cet officier était à son commencement lorsqu'il vint demander la guérison de son fils. Il a entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ, il fait déjà un acte de foi, c'est pour ça qu'il vient vers notre Seigneur Jésus-Christ pour le prier de descendre de guérir son fils qui était près de mourir. Et c'est là la foi du commençant. Et cette foi va prendre de l'accroissement lorsqu'il crut à la parole du Seigneur qui lui disait « Votre fils est guéri ». Donc au lieu de poser des questions, il va croire immédiatement en cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc première étape, l'étape des commençants, il vient et demande la guérison de son fils. Deuxième étape, il croit à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ « Votre fils est guéri ». Troisième étape, cette troisième étape se trouve lorsque ses serviteurs vinrent lui confirmer la guérison de son fils. Comme il descendait, ses serviteurs vinrent au-devant de lui et annoncèrent que son fils vivait. Et c'est important pour nous de comprendre ces choses-là parce qu'on ne peut pas aller directement à une foi parfaite. Une foi va progresser, c'est un peu comme une plante, une plantule qui va grandir à partir de la graine dans la terre. Elle va grandir, devenir une petite herbe, puis une herbe plus grande, puis finalement devenir quelque chose de beaucoup plus vigoureux avant de donner une fleur et des fruits. Et bien c'est la même chose pour la foi. Donc, nous aussi, on passe par la foi des commençants, puis la foi des progressants, enfin la foi des parfaits. N'oublions pas que la foi des parfaits est incompatible avec le péché. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui est en vie unitive, en vie mystique, peut être réparée par le fait qu'il ne commet plus du tout le péché mortel. Alors qu'on trouve encore le péché mortel, même de façon occasionnelle, en général de façon occasionnelle, dans la partie des commençants, dans la vie purgative. On peut aussi comprendre que quelqu'un est en vie illuminative s'il n'y a plus de péché mortel en lui, il n'y a plus que des péchés véniels. Donc, l'existence des péchés mortels dans une âme montre que cette personne est encore en général en voie purgative. Puis, lorsque les péchés mortels disparaissent, mais qu'il y a encore des péchés véniels, on est en voie illuminative. Et lorsque les péchés véniels disparaissent complètement à la suite de la disparition des péchés mortels, on est en voie unitive. Il n'y a plus de péché. Donc, mystiquement, les pères, voilà, pour donner maintenant le sens mystique de ce passage du chapitre 4 de Saint Jean, ce double voyage de Jésus en Galilée, on figure le double avènement du Sauveur dans le monde. Le premier, qui est tout de miséricorde, et où il porte la joie dans le cœur des convives en changeant l'eau en vin. Donc, à Cana de Galilée, notre Seigneur a fait son premier miracle. La deuxième miracle, quand il rend la vie à la vie, le fils de cet officier, presque entre les bras de la mort, c'est-à-dire le peuple juif qui sera sauvé à la fin du monde après que la plénitude des nations sera rentrée dans l'Église. Donc il y a deux étapes. Notre Seigneur Jésus-Christ était venu d'abord pour les Juifs, mais malheureusement la plupart des Juifs ont refusé l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que notre Seigneur ait annoncé son arrivée à plusieurs reprises par les prophètes, qu'il ait prouvé sa divinité par l'accomplissement de tous ses miracles, la plupart des Juifs ne vont pas croire. Mais l'Église enseigne que puisque les Juifs ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur va envoyer ses apôtres prêcher à l'extérieur de la Palestine, donc dans toute les terres habitées de cette époque. Les apôtres vont partir enseigner notre Seigneur Jésus-Christ, mais à la fin des temps, il y aura un retour de notre Seigneur Jésus-Christ en Galilée, c'est-à-dire un retour vers les Juifs avec la conversion au moins d'une partie du peuple juif. Il y a un peu un mystère là, on ne sait pas très bien exactement comment va se consister cette conversion d'une partie du peuple juif. Qu'est-ce que veut dire ce mot « partie du peuple juif » C'est un peu un mystère, on ne sait pas très bien. C'est, d'après les pères de l'Église, un signe avant-coureur de la fin des temps. Pour ça que lorsque les gens me disent on est certainement à la fin des temps, on va voir la fin du monde qui arrive tout de suite, attendez, un des signes de l'arrivée de la fin du monde, de l'approchement, de la proximité avec la fin du monde, c'est la conversion du peuple juif. Or, cette conversion, ben, malheureusement, on ne la voit pas du tout actuellement, donc on n'est vraisemblablement pas du tout proche de la fin du monde, puisqu'il n'y a pas encore cette conversion du peuple juif. Donc on voit bien les deux étapes. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu abandonner complètement les Juifs qui l'ont refusé pour le crucifier, mais il va revenir vers eux pour leur obtenir des grâces de conversion à la fin des temps. Mais ces Juifs ne reviendront qu'après que la plénitude des nations soit rentrée dans l'Église. Donc, c'est lui donc qui est le grand roi des rois que Dieu a établi sur la sainte montagne de Sion. Ceux qui ont vu son jour étaient remplis de joie. Cet officier royal, c'est Abraham, d'après les pères. Son fils malade, c'est le peuple d'Israël, qui a laissé s'affaiblir entre ses mains le culte du vrai Dieu, qui transperçait des traits enflammés de l'ennemi, comme atteint d'une fièvre mortelle. Donc cet enfant qui est en train de mourir, fils donc de l'officier du roi, eh bien, il représente le peuple juif, le peuple d'Israël, qui s'est laissé affaiblir, qui a laissé affaiblir en lui le culte du vrai Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ va avoir pitié de cet enfant à la demande du fils de l'officier du roi. Bon, si l'officier du roi représente notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, le roi, c'est Dieu le Père. Donc l'officier vient demander la conversion du peuple juif. Notre Seigneur Jésus-Christ vient supplier Dieu le Père d'obtenir la grâce de la conversion du peuple juif. Nous voyons encore ici que les saints dont nous venons de parler, lorsqu'ils ont dépouillé l'enveloppe de cette chair mortelle, prennent compassion de leur peuple. Cet officier, outre son fils, avait des serviteurs qui représentent ceux dont la foi est encore faible et imparfaite. Ce n'est point sans dessein que la fièvre quitte cet enfant à la septième heure, car le nombre 7 est le symbole du repos. Le nombre 7 représente la complétion des choses, c'est-à-dire le fait que les choses soient complètes dans ce sens-là. Alors, les serviteurs au service de l'officier du roi ont une foi moins forte que l'officier du roi qui vient demander un miracle à notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, alors que apparemment il n'y a plus qu'une chance pour son fils qui est en train de mourir. Bon. Les serviteurs, eux, viennent chercher leur maître une fois qu'ils ont vu que le fils qui était malade est sorti de la fièvre. Il y a une amélioration très nette. À ce moment-là, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé et ils vont prévenir leur maître. Alors que le maître, lui, l'officier du roi lui-même, l'officier voit les choses alors qu'il comprend les choses, comprend que notre Seigneur Jésus-Christ a un pouvoir de guérison alors qu'il n'a encore rien vu. Les serviteurs ont dû attendre de voir la guérison pour bouger. Donc il y a plus de foi chez l'officier que chez les serviteurs. C'est pour ça que les pères disent que la foi des serviteurs est encore faible et imparfaite. Donc, c'est parce que c'est l'esprit aux sept dons, donc le chiffre 7 ici représente aussi les sept dons du Saint-Esprit. Il est venu en effet il a été guéri à la septième heure. Hier à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le Père reconnut que c'est à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Votre fils vit », et il crut, lui et toute sa maison. Donc, ce chiffre 7 représente la totalité, la perfection plus exactement. Donc, 7 représente la perfection. C'est pour ça qu'il y a 7 sacrements et 7 dons du Saint-Esprit. Donc, c'est parce que l'Esprit aux 7 dons est l'auteur de la rémission des péchés, car le nombre 7 composé du nombre 3 et 4 représente la Sainte Trinité dans les 4 temps de l'année. Le chiffre 4 souvent représente l'ensemble du monde moderne, c'est-à-dire les 4 points cardinaux du monde dans lequel nous vivons. Dans les quatre parties du monde, comme dans les quatre éléments. Les anciens pensaient qu'il y avait quatre éléments de base. Et donc le chiffre 4 représente le monde. Donc la Sainte Trinité qui prend possession de l'intégralité du monde. On peut donc voir ici les deux avènements du Verbe dans notre âme. Le premier où l'eau fut changée en vin, fait éprouver à l'âme la joie d'un banquet spirituel. Le second qui retranche sous les restes cette langueur et de la mort spirituelle. Donc, au début, premier miracle, c'est le miracle de Cana en Galilée. Notre Seigneur Jésus-Christ va changer, s'occuper de choses matérielles, changer l'eau en vin. Deuxième miracle, la guérison du fils de l'officier du roi. Là, on passe au domaine spirituel, des choses vivantes. Ce n'est plus du vin, un objet matériel. C'est quelque chose qui est plus important, à savoir la santé d'un homme, la santé d'un enfant. Et ceci va amener au troisième niveau, qui est la conversion au niveau des âmes. Donc on parle d'abord des choses matérielles, puis ensuite des choses physiques, comme la santé du fils de l'officier, et enfin on arrive à la conversion, c'est-à-dire aux choses purement spirituelles. On voit aussi ici que notre Seigneur va souvent utiliser des choses matérielles pour amener l'âme aux choses spirituelles, monter au niveau spirituel. On le voit très bien dans l'attitude de notre Seigneur, c'est pour ça qu'il parle en parabole. Il parle en parabole pour monter les gens du domaine naturel au domaine surnaturel. Alors, voyons un petit peu, creusons un petit peu les termes utilisés par les pères de l'Église. Donc, premier miracle, miracle de Cana en Galilée, changement de l'eau en vin. On est au premier degré de la conversion. Deuxième miracle, à savoir la guérison du fils de l'officier du roi. Là, ce sont les restes de langueur et de mort spirituelle qui disparaissent. Donc on monte plus proche de la divinité. Selon un autre père de l'Église, Théophylacte, cet officier du roi représente tout homme. Non seulement parce que l'homme et par son âme dans les rapports étroits avec le souverain roi de tout ce qui existe, mais aussi parce que Dieu lui a donné l'autorité sur toutes les créatures. Donc son fils, c'est l'âme de l'homme, en proie à la fièvre des mauvais désirs et des convoitises charnelles. Et donc il y a de même qu'il y a une union, si vous voulez, entre l'officier du roi et son fils. De la même façon, il existe une union entre le corps et l'âme d'un individu. Donc le fils représente l'âme de l'homme en proie à la fièvre, des mauvais désirs et des convoitises charnelles. C'est pour cela que, à cause du travail des concupiscences sur cette âme est moribonde. Et l'officier reconnaît que son fils est au bord de la mort. Il s'approche donc de Jésus et cet officier va prier Jésus de descendre et de s'abaisser jusqu'à lui par une miséricordieuse condescendance et de lui pardonner ses péchés avant que sa maladie des voluptés sensuelles ne lui ait fait perdre la vie. Le Seigneur lui dit, allez, c'est-à-dire faites toujours de nouveaux progrès dans le bien, et alors votre fils sera rendu à la vie. Mais si vous cessez de marcher, votre âme frappée de mort ne pourra plus faire aucune bonne action. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va pousser, si vous voulez, cet homme dont il admire déjà la foi, il va le pousser de plus en plus haut. Oui. Et c'est par une grâce toute spéciale que Dieu a donnée à cet officier du roi que l'officier va croire en la parole que Jésus lui avait dite, allez, votre fils vit, et il s'en va. Il aurait pu dire, mais il faut que vous veniez, parce que de loin, peut-être que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Non, il croit, votre fils vit, il croit, et il part. Et ses serviteurs vont venir à lui pour l'annoncer que son fils vivait. On voit très bien ici que notre Seigneur Jésus-Christ nous pousse vers le haut, nous pousse vers une foi plus parfaite. Au début, ce que dit Saint Paul, au début, on donne à un enfant à manger du lait, le lait maternel, puis petit à petit, la nourriture va devenir de plus en plus forte pour finir par pouvoir manger comme un adulte. Et bien, c'est la même chose dans la vie spirituelle. Notre Seigneur Jésus-Christ fait monter les âmes vers lui, mais ça prend un certain temps. Vous voyez, il demande une augmentation de la foi. Autre texte de Saint Bède le Vénérable. Nous devons comprendre qu'il y a des degrés de foi comme il existe des degrés de vertu. Donc, on a déjà expliqué la foi des commençants, la foi des progressants, la foi des parfaits. La foi qui correspond à la vie purgative, la foi qui correspond à la vie illuminative, la foi qui correspond à la vie unitive ou mystique. Il y a donc le début, l'augmentation, la perfection de la foi. Cet officier vivait à Capharnaüm comme le centurion. Il était certainement habile. Le centurion, par ce miracle, qui était antérieur au sien, conçut une si grande foi dans le Christ qu'il déclara, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et là, on trouve un miracle semblable au premier. Alors, selon Théophylacte, Théophylacte m'a donné le sens moral de ce texte et de textes parallèles. Donc, le petit roi, Régulus en latin, représente chaque homme qui a assumé le contrôle de toute chose et non pas celui qui est près du roi. Donc le Fils est fiévreux à cause de ses plaisirs et ses désirs dépravés. Le Christ qui descend montre sa condescendante miséricorde. Donc notre Seigneur Jésus-Christ qui accepte de se déplacer dans certains cas pour aller directement soigner la personne ou qui rassure tout de suite le Père en lui disant « Allez, votre fils vit », cela symbolise la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ pour les âmes des pécheurs repentants. Alors, autres explications données par les pères, je trouvais ça un petit peu dans les différents commentaires. L'enfant fut guéri à la septième heure. Je vous ai déjà expliqué que le 7 signifie la perfection. Le chiffre 7 est le symbole du sabbat aussi, du repos qui est la santé. Le même chiffre qui est le symbole des 7 dons du Saint-Esprit en qui est le salut. On a déjà vu ce texte, c'est un texte d'Origène. Voilà, nous avons enfin terminé ce chapitre 4 de Saint Jean. On voit que les évangiles, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'évangile de Saint Jean est un évangile beaucoup plus complexe que les synoptiques, que les trois autres évangiles, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Alors, passons au chapitre 5 de Saint Jean, donc de la page 55. Après cela, d'abord les 13 premiers versets. Après cela, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem la piscine des brebis, qui s'appelle en hébreu Bethsaïda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient étendus un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car l'ange du Seigneur descendait de temps en temps dans l'eau dans la piscine. Et en agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier dans la piscine, après que l'eau avait été agitée, était guéri quelque peu de sa maladie. Page 56. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Voulez-vous être guéri ?» Et le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau a été agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Levez-vous, prenez votre grabat et marchez. » Et aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son grabat et marcha. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne vous est pas permis d'emporter votre grabat. » Il leur répondit, « Celui-là même qui m'a guéri m'a dit, « Prenez votre grabat et marchez. » Ils lui répondirent, « Quel est cet homme qui vous a dit, « Prenez votre grabat et marchez ?» Et celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était retiré de la foule rassemblée en ce lieu. » Alors les pères font remarquer que cette piscine de Bethsaïde était une piscine réservée aux animaux. Donc les prêtres venaient laver les corps des victimes, soit avant le sacrifice, soit après le sacrifice. Notamment lorsque les animaux devaient être consommés par les prêtres, une partie des sacrifices était consommée par les prêtres. La viande de sacrifice, par exemple la viande d'un agneau qui avait été immolé, pouvait être consommée par le prêtre. Dans certains cas, il fallait donc nettoyer ces animaux qui étaient tous sanguinolents parce qu'ils venaient d'être immolés. Il fallait nettoyer ces animaux avant de pouvoir les utiliser pour la nourriture. Et donc, il y avait des endroits où il y avait ces purifications rituelles parce que le sang était considéré par les Juifs comme quelque chose d'impur. Il fallait éviter donc le sang des animaux. Alors, il est évident que cette eau qui va s'agiter, qui va guérir, est le symbole du sacrement de baptême. C'est Saint Jean Chrysostome qui le fait remarquer. Le Sauveur devait donc instituer un baptême pour la rémission des péchés. Nous trouvons un emblème dans cette piscine et dans d'autres figures semblables. Donc, toutes les différentes purifications que faisaient les Juifs, entre autres les purifications à cette piscine probatique, étaient des symboles des sacrements qui allaient arriver beaucoup plus tard. À cette époque, notre Seigneur n'a pas encore institué le sacrement de baptême. Donc c'est une annonce du sacrement de baptême. Et les Juifs de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi en un Messie qui allait venir, qui n'est pas encore venu. Et donc, toutes les purifications de l'Ancien Testament représentaient les purifications sacramentales du Nouveau Testament. Le sacrement de pénitence, par exemple, est une purification. Se laver les mains de façon rituelle dans l'Ancien Testament était aussi une purification. Mais une purification de l'Ancien Testament symbolisait une purification nouvelle qui allait arriver plus tard, à savoir la purification des péchés par le sacrement de baptême. Donc Dieu ordonna d'abord des purifications extérieures pour laver les souillures du corps et les tâches qui n'existaient pas en réalité, mais qu'on regardait comme telles. Par exemple, celles qu'on a contractées par le contact d'un cadavre, par la lèpre, par d'autres causes du même genre. Mais c'est triste de voir que les gens sont extrêmement préoccupés par les choses matérielles, ne se préoccupent pas du tout des choses spirituelles. Donc les Juifs de l'Ancien Testament étaient très préoccupés par les souillures qui pouvaient contracté avec le contact, par le contact avec un cadavre, contact avec un simple ustensile de cuisine qui avait été touché par un lépreux, ça contaminait les gens qui touchaient ce même instrument de cuisine. Et donc il y avait toute une série de purifications rituelles pour se protéger. Le problème, c'est que tous ces gens qui sont en général extrêmement sourcilleux pour se protéger des choses matérielles ne pense pas qu'il faut d'abord se protéger des choses spirituelles qui sont bien plus importantes. Donc les tâches, ces souillures des corps, sont beaucoup moins graves que les souillures des âmes. Je suis sûr que si les gens modernes se préoccupaient de leur âme avec autant de soin qu'ils s'occupent de leur corps, ils seraient tous des saints depuis longtemps. On voit la quantité d'argent et de temps, d'énergie qui est placée par les gens modernes pour s'occuper de leur corps. On peut se dire, mais s'ils s'occupaient de leur âme avec la même énergie, ils seraient tous devenus des saints plus longtemps. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que les gens s'occupent de leur corps, mais laissent tomber l'âme, sans comprendre que l'âme étant la forme du corps est bien plus importante que le corps. Il faut craindre non pas ceux qui ont pouvoir sur les corps, mais craindre ceux qui ont pouvoir sur les âmes. Donc, voir où sont les véritables tâches. Les tâches spirituelles sont bien plus graves que les tâches matérielles. Les souillures de l'âme sont bien plus graves que les souillures du corps. Dieu voulait ensuite que l'eau fût aussi et encore un remède efficace pour diverses maladies, comme nous le voyons ici. Donc, sous ces portiques de la piscine probatique, gisait un grand nombre de malades, d'aveugles et de boiteux. Pour nous préparer de plus près à la grâce du baptême, il ne se contente plus de purifier les souillures extérieures, il guérit encore les maladies. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, commence par manifester son rôle de médecin sur par les guérisons physiques, ces gens qui étaient lépreux, qui étaient paralysés, qui étaient aveugles ou sourds ou muets, et de ces choses physiques, il va monter aux choses spirituelles. Donc il va guérir quelqu'un et ensuite monter au niveau spirituel en lui disant va et ne pêche plus, allez ne péchez plus, pour bien montrer que il a pouvoir sur les corps, mais il a encore plus pouvoir sur les âmes. Et il demande à ses interlocuteurs de passer des corps aux âmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Tous ne sont pas réussi à monter des corps aux âmes. Donc maintenant, au contraire, en bas de la page 56, chacun peut avoir accès à cette piscine, à cette guérison, car ce n'est point un ange qui vient agiter l'eau, mais le Dieu des anges qui opère toutes ces merveilles. Donc derrière, encore une fois, derrière ce miracle, de cet homme qui était malade depuis 38 ans, il y a évidemment tout le sacrement de baptême qui est annoncé. Donc, de même qu'un ange descendait dans les eaux pour guérir celui qui descendait le premier après le mouvement de l'eau, et bien de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ va instituer le sacrement de baptême pour nous conférer la vertu de charité. N'oubliez pas que le baptême a pour but premier de conférer la charité. Comme la charité est incompatible avec le péché, évidemment, quand on baptise par exemple un bébé qui n'a pour seul péché qu'un péché de nature, le péché du péché originel, eh bien c'est le péché originel qui saute. Donc le baptême est conféré pour donner la charité. Le but du baptême, ce n'est pas directement dans le péché originel, ça c'est une conséquence. Le but du baptême, c'est d'enlever de donner la vertu de charité. Cette vertu de charité, c'est comme un soleil qui rentre dans une âme qui avait été maintenue dans les ténèbres les plus profondes depuis des années et des années. Et puis, le soleil arrive et illumine tout. Un soleil qui brûle, qui va réchauffer, qui va purifier, qui va guérir. C'est le symbole du baptême. Donc, le baptême va donner d'abord la vertu de charité. Comme la vertu de charité est incompatible avec le péché saute. Quand on baptise un bébé, le bébé n'a qu'un seul péché, péché de nature, à savoir le péché originel. C'est donc ce péché qui va sauter par le baptême. Souvent, quand je pose cette question aux familles des baptisés, je dis, mais quel est le rôle du baptême? Pourquoi baptise-t-on les enfants? Ils me disent toujours pour enlever le péché originel. Ce qui est vrai, mais c'est une conséquence. C'est une conséquence du baptême. Parce que Dieu met dans l'âme de ce nouveau baptisé, la vertu de charité, qui va éclater comme un soleil de justice, eh bien, cette vertu de charité va éliminer tous les péchés. Donc, conséquemment, en conséquence du fait qu'on a baptisé cet enfant, le péché originel va sauter. L'univers entier se présenterait que la grâce ne serait point épuisée. Elle reste toujours la même. De même, comparaison des pères. De même que les rayons du soleil éclairent tous les jours qui se succèdent sans qu'il soit jamais épuisé, sans que la profusion avec laquelle le soleil répand sa lumière en diminue l'éclat. Ainsi, à plus forte raison, la multitude de ceux qui participent à la grâce de l'Esprit Saint n'en amoindrit en rien l'efficacité toute divine. Avec les choses matérielles, plus on les utilise, plus elles diminuent. Bon, une quantité d'eau limitée, si vous buvez à satiété dans cette eau, la quantité d'eau va évidemment diminuer, c'est mathématique. Ce n'est pas le cas avec les choses spirituelles. Plus on les consomme, même si on les consomme énormément, elles ne changent pas. Notre Seigneur Jésus-Christ est présent de la même façon dans une hostie, dans 150 hosties, c'est la même chose. Oui. Il faut bien comprendre ce grand mystère. On le voit aussi un peu dans la multiplication des pains. Notre Seigneur Jésus-Christ part de quelques pains, quelques poissons, il va les multiplier, et malgré la profusion des gens qui viennent se servir, il y avait 5000 personnes, eh bien, la quantité de pain demeure. À tel point qu'on est obligé de ramasser les corbeilles, avec des corbeilles, le pain qui est en surplus. Ça montre bien, justement, qu'avec les grâces du Saint-Esprit, elles ne sont jamais amoindries, jamais diminuées, parce que, justement, la miséricorde de Dieu est infinie. Un seul homme a été guéri après que l'eau était agitée dans la piscine probatique, afin que ceux qui connaissaient la puissance de cette eau pour guérir les maladies du corps, instruits par une longue expérience, puissent croire plus facilement que l'eau pouvait guérir également les maladies de l'âme. J'ai déjà expliqué, Dieu part des choses matérielles, la guérison du corps, pour amener à la compréhension de la guérison des maladies spirituelles. Puisque vous voulez absolument être guéri des maladies physiques, des maladies corporelles, pensez que vous avez une âme qui est bien plus importante. Donc le fait que je puisse faire des guérisons matérielles prouve que j'ai pouvoir aussi sur les âmes et faire des guérisons spirituelles qui sont en soi bien plus importantes que les guérisons purement matérielles. L'âme étant au-dessus du corps. Donc il faut justement croire au pouvoir de Dieu de guérir les maladies de l'âme. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va provoquer, va faire des miracles, par exemple il va rendre la vue à un aveugle ou va donner la parole à un muet, mais en fait derrière il prépare le terrain pour quelque chose de bien plus grand, c'est-à-dire le pardon des péchés. C'est pour ça que souvent il va dire allez et ne péchez plus, ne péchez plus. Bien à faire comprendre que si j'ai pouvoir, ce que dit notre Seigneur, puisque j'ai pouvoir sur les corps, j'ai aussi pouvoir sur les âmes parce que je suis Dieu. Donc, d'après certains pères, la piscine probatique et l'eau qu'elle contenait paraissent être le symbole du peuple juif, car nous voyons clairement dans l'Apocalypse les peuples figurés sous l'emblème des eaux. Donc, Saint Bède va redire la même chose, c'est avec raison que cette piscine est appelée la piscine probatique ou des brebis, car le peuple juif est souvent représenté sous l'emblème de la brebis. Selon ces paroles du psaume, nous sommes votre peuple et les brebis de votre troupeau. Donc, la piscine représente le peuple juif. Et la guérison miraculeuse des gens dans la piscine probatique montre, indique, si vous voulez, l'arrivée de Dieu qui va guérir les âmes comme il a pouvoir de guérir les corps. Ici un texte de Saint Augustin, toujours en page 57. L'eau de cette piscine, c'est-à-dire le peuple juif, était renfermée dans les cinq livres de Moïse, comme dans les cinq portiques. Les cinq livres de Moïse, c'est ce qu'on appelle le Pentateuch. Pentateuch, ce sont les cinq premiers livres de l'Écriture sainte. Ces cinq livres sont les suivants, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. La tradition catégorique, ces cinq livres ont été écrits par Moïse sous la dictée des Saints d'Esprit. Donc, l'enseignement du peuple juif était basé sur le Pentateuque, donc les cinq livres. C'est pour cela que piscine probatique avait 5 portiques. Voilà, sur le verset 2 du chapitre 5 de Saint Jean, il y avait à Jérusalem une piscine des brebis qui s'appelait en hébreu Bethsaïda, qui avait 5 portiques. Donc les 5 portiques, disent les pères de l'Église, représentent les 5, représentent, si vous voulez, l'intégralité de l'enseignement du peuple juif, au peuple juif, à savoir les Pentateuques. Donc les 5 premiers livres de la Genèse, qui sont communs aux juifs et aux catholiques, puisque les catholiques aussi reconnaissent l'historicité des livres du Pentateuque. Donc, les pères vont insister sur cette piscine et l'eau qu'elle contenait représentant le peuple juif. Donc, autre texte de Saint Bède, c'est avec raison que cette piscine est appelée la piscine probatique ou des brebis, car le peuple juif est souvent représenté sous l'emblème de la brebis, notre Seigneur Jésus-Christ étant le bon pasteur. Selon la parole du psaume, nous sommes votre peuple et les brebis de votre troupeau. Alors, ici un texte de Saint Augustin, on est toujours en page 57, je vous ai déjà expliqué qu'il peut y avoir parfois des différences d'un ou deux numéros pour les pages, à cause du fait que j'ai changé d'ordinateur et que les lignes ont été complètement modifiées, parce que j'ai passé de Windows à un autre type d'ordinateur, Linux, et ça m'a changé toutes les lignes. J'ai pas eu le temps de tout refaire. Donc Saint Augustin explique que l'eau de cette piscine, c'est-à-dire le peuple juif, était renfermé dans les 5 livres de Moïse comme dans les 5 portiques. Et ces livres découvraient les maladies, mais sans les guérir. Car la loi convainquait les pécheurs de leurs crimes, mais sans pouvoir les absoudre. C'est pour ça que les gens qui gisent au pied de ces 5 portiques de la piscine ne peuvent pas être guéris. Il n'y en a qu'un seul qui va être guéri, c'est tout. Et les autres vont rester sur le carreau parce qu'ils ne vont pas être guéris, parce que seul le premier qui descendait de la piscine après le mouvement de l'eau provoqué par l'ange pouvait être guéri. Et justement, donc, c'est le symbole, si vous voulez, de notre Seigneur Jésus-Christ qui va amener la guérison, la possibilité de guérison, pas simplement à un seul homme, mais à l'intégralité des malades, c'est-à-dire à tous les hommes. Ici un texte de Saint Bède le Vénérable. Toutes sortes d'infirmités se donnaient rendez-vous autour de cette piscine. Les aveugles qui sont privés de la lumière de la science, les boiteux qui n'ont pas la force d'accomplir ce que la loi leur commande, les desséchés ou les paralytiques qui ont perdu la sève vivifiante de l'amour céleste. Donc, rappelez-vous que toutes ces maladies symbolisaient des maladies spirituelles. Donc, les aveugles qui ne pouvaient voir les choses physiques représentaient ceux qui étaient aveugles spirituellement parlant. Les boiteux représentaient ceux qui n'arrivaient pas à suivre la loi du bon Dieu parce que justement ils ne marchaient pas droit. Et les paralytiques représentaient ceux qui avaient perdu l'amour du bon Dieu par le péché mortel. Alors, les pères expliquent que celui qui descend dans cette eau agitée par l'ange croit humblement à la passion du Sauveur. Et qu'un seul homme était guéri, à la fois pour représenter l'unité de l'Église. L'Église catholique est une. Nul autre malade qui venait ensuite était guéri, parce qu'on ne peut être ni guéri ni sauvé en dehors de cette unité de l'Église. Malheur à ceux qui n'aiment point l'unité, qui forment des partis ou des sectes parmi les hommes. Donc rappelez-vous, j'ai expliqué ça souvent dans le sermon, que l'unité de l'Église ne peut pas être détruite. L'Église catholique est une sainte catholique et apostolique, et sera une sainte catholique et apostolique jusqu'à la fin des temps. Donc il n'y a pas de perte possible de l'unité de l'Église. Souvent les gens me disent, monsieur l'abbé, est-ce qu'on peut dire une messe pour que l'Église retrouve son unité? Je ne peux pas dire une messe pour cette intention, parce que l'Église n'a jamais perdu son unité, puisque l'Église est divine. C'est comme si quelqu'un me disait, dites une messe, monsieur l'abbé, pour que notre Seigneur Jésus-Christ ne perde pas sa divinité. Il ne peut pas la perdre, parce que la divinité est une partie intégrante de la nature divine, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu et vraiment homme. C'est pareil pour l'Église catholique. L'Église catholique ne peut pas perdre son unité. Il n'y a pas besoin de prier pour l'unité de l'Église. L'unité de l'Église est et elle sera jusqu'à la fin des temps. Donc malheur, disent les pères, à ceux qui n'aiment point l'unité et qui forment des partis ou des sectes parmi les hommes. Ensuite, c'est surtout saint Augustin qui s'amusait parfois avec les nombres. Donc, le texte sacré dit que cet homme était malade depuis 38 ans. Ce nombre est bien plutôt l'emblème de la maladie que de la santé. Donc, saint Augustin a parfois des explications assez difficiles à suivre avec les chiffres, pour donner un sens mystique aux chiffres. Et là, il va expliquer, je vous lis un texte qui est un peu complexe, il va expliquer que on parle du nombre 10, qui est la représentation de la loi divine, c'est la loi des 10 commandements, qui doit être répartie dans le monde entier, donc les quatre parties du monde, j'ai déjà expliqué, les quatre points cardinaux, ça représente 40, donc 4 fois 10, ça fait 40. Bon, mais cet homme, il manquait quelque chose, puisqu'il avait 38 ans, qu'il était malade et pas 40. Bon, et que donc il lui manquait quelque chose, et ce quelque chose qui manquait à cet homme, c'était les deux préceptes de la charité, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu d'une part et l'amour du prochain d'autre part. Je vous lis le texte, qui est un peu difficile à suivre d'ailleurs. Alors, le nombre 40 est un nombre consacré pour signifier la perfection. Ainsi, la loi contient 10 préceptes et 10 commandements. Elle devait être annoncée dans tout l'univers qui se divise en 4 parties, 4 points cardinaux. Or, le nombre 10 est pris 4 fois, multiplié par 4, fait 40. Peut-être encore, est-ce parce que les 4 livres de la loi trouvent leur accomplissement dans l'évangile. Si donc le nombre 40 emporte la perfection de la loi, et si la loi ne peut être accompli que par le double précepte de la charité, pourquoi vous étonnez que cet homme à qui il manquait 2 ans, pour avoir 40 ans, fût languissant et malade? En fait, l'homme n'avait pas 40 ans, il était malade depuis 38 ans. Alors, est-ce qu'il était malade depuis sa jeunesse, depuis sa naissance? C'est possible, je ne sais pas. Saint-Augustin semble affirmer que l'homme était malade depuis paralysé, depuis sa naissance. Possible. Donc, ne pas s'étonner qu'un homme à qui il manque 2 pour avoir un chiffre parfait, chiffre de 40, cet homme donc ne pouvait pas être guéri parce qu'il lui manquait quelque chose. Le Sauveur le trouve malade depuis 40 ans moins 2 années et lui ordonne 2 choses pour combler cette lacune. Car ces 2 commandements du Seigneur représentent les 2 préceptes de la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est-à-dire de l'amour, pardon. Ces 2 commandements du Seigneur représentent les 2 préceptes de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu d'une part, l'amour du prochain d'autre part. L'amour de Dieu est le premier qui soit commandé, l'amour du prochain est le premier qui doit être mis en pratique. Donc l'amour de Dieu amène à l'amour du prochain. Donc il faut aimer le prochain, non pas pour lui-même, il faut aimer le prochain par amour de Dieu. C'est ça le premier commandement. C'est toute la loi divine. Aimer Dieu, d'abord, aimer le prochain pour amour de Dieu. C'est aimer le prochain en aidant le prochain à atteindre Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, le bon Dieu ne demande pas d'aimer le prochain tel qu'il est et pas chercher à monter le prochain vers Dieu. Le prochain vit tranquillement dans le péché mortel jusqu'au cours, ce n'est pas de l'aider que d'accepter sa situation pécamineuse. Il faut aider cet homme justement à sortir du péché. Donc, enfin, c'est une explication donnée par Saint-Augustin. J'avoue que parfois j'ai un peu de mal à suivre les explications de Saint-Augustin au niveau des chiffres, parce qu'il est assez complexe. Parfois c'est compliqué. Donc là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le chiffre 40 est un chiffre de perfection. Bon. Il représente l'intégralité de la loi divine manifestée par les 10 commandements. Et donc, puisque cet homme n'avait que 38 ans, il lui manquait quelque chose. Ce qui lui manquait, c'était l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est-à-dire la vertu de charité. Donc Dieu va donner la vertu de charité à cet homme, et donc comme il a à ce moment-là ce qui lui manque, cet homme va guérir. Jésus donc va lui dire, prenez votre lit, c'est-à-dire lorsque vous étiez infirme, c'était votre prochain qui vous portait, maintenant que vous êtes guéri, portez votre prochain à votre tour. Et lui dit encore, marche, mais quelle voie devez-vous suivre? Celle qui conduit vers Dieu. Une belle phrase. Ce que vous étiez infirme, c'était votre prochain qui vous portait. Maintenant que vous êtes guéri, portez votre prochain à votre tour. Et une fois que j'ai reçu des grâces de conversion, je dois utiliser ces grâces de conversion pour convertir ceux qui sont autour de moi. Commencer par les gens qui sont mes proches prochains, à savoir les membres de ma famille. Alors, que signifient ces paroles « Levez-vous et marchez » Évidemment qu'il y a un sens mystique derrière. Je rappelle le texte. Jésus lui dit, ce verset 8, « Levez-vous, prenez votre grabat et marchez. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son grabat et marcha. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. « Levez-vous et marchez. » Qu'est-ce que ça veut dire? On voit un petit peu le sens mystique derrière tout ça. Le sens mystique est clair. Levez-vous et marchez, c'est-à-dire que vous étiez dans le péché, vous êtes sorti du péché, il faut que ça se voie. Votre conversion doit donc devenir publique. Il faut se lever, c'est-à-dire quitter sa situation de péché et marcher. Marcher, ça veut dire quoi? S'éloigner des occasions prochaines volontaires de péché. Si je reste dans la position pécaminose dans laquelle j'étais auparavant, mais je ne peux pas être guéri. Donc j'étais dans le péché, il faut d'abord me lever. Prendre de la hauteur pour voir la situation dans laquelle j'étais et marcher, c'est-à-dire quitter cette situation de péché. Si je garde dans ma vie de tous les jours les occasions prochaines volontaires de péché mortel, je ne peux pas être pardonné parce que je suis dans un état de présomption. On ne peut pas présumer être sauvé, être guéri par Dieu si je garde dans ma vie de tous les jours les causes de mon malheur. Les causes de notre malheur, c'est le péché. Donc il faut sortir du péché pour pouvoir justement être guéri par Dieu. C'est la signification de ces mots, levez-vous et marchez. Et en ça, en bas de la page 57, que signifient ces paroles, levez-vous et marchez? Donc sortez de votre torpeur c'est le péché, et de votre indolence, la sédie, la paresse spirituelle, et appliquez-vous à faire des progrès dans les bonnes œuvres. Prenez votre lit, c'est-à-dire votre prochain qui vous porte lui-même, et supportez patiemment ses défauts. Ici, une autre explication, cette fois-ci de Saint Augustin, portez celui avec qui vous marchez, si vous voulez parvenir jusqu'à celui avec lequel vous devez désirer demeurer éternellement. Ce paralytique ne connaissait pas encore Jésus. Ainsi, nous-mêmes, nous croyons en lui sans le voir parce qu'il se retire de la foule pour se dérober au regard. Dieu ne peut être vu que dans une certaine solitude. La foule est toujours au milieu de l'agitation. La vue de Dieu demande le silence et le secret. Vous voyez donc. Ici, ce qui est bien, bon, important de comprendre, c'est que le bon Dieu, une fois qu'on l'a rencontré, qu'on a trouvé notre Seigneur Jésus-Christ par une bonne confession, une conversion quelconque, d'une façon ou d'une autre, eh bien, il faut se lever, marcher. Il ne faut pas rester comme on était auparavant. On le voit très bien également dans l'histoire des rois mages. Rappelez-vous, les trois rois mages qui viennent adorer notre Seigneur Jésus-Christ, qui viennent reconnaître en lui l'homme. Le roi et le Dieu, et donc qui lui donne l'or, l'encens, l'myrrhe. Mais une fois qu'ils ont rempli leur fonction de donner à l'enfant Jésus l'or, l'encens, l'myrrhe, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent chez eux, mais l'évangile nous dit par un autre chemin. Et cet autre chemin représente justement ici cette phrase, levez-vous et marchez. Ils sont levés et marchés, ils ont découvert notre Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont plus les mêmes hommes, ils doivent rentrer chez eux par un autre chemin. C'est la même chose pour nous. Lorsque j'ai découvert notre Seigneur Jésus-Christ, après une retraite, après une bonne confession, une bonne communion, eh bien, je dois changer de vie et donc me lever et marcher. Celui qui refuse de se lever est incapable de prendre de la hauteur et de voir ce qui se passe. Celui qui refuse de marcher pour s'éloigner des occasions de péché montre qu'il n'a rien compris, qu'il veut rester dans la situation de péché dans laquelle il était auparavant. Et donc, tant qu'il reste dans la situation de péché dans laquelle il était auparavant, il ne peut absolument rien recevoir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la signification du mot levez-vous et marchez. Alors, je vais arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure que je vous parle. Je vais mettre un petit peu dans mes papiers où est-ce que j'en suis. 9. Donc, je continuerai, si Dieu veut, la prochaine fois pour avancer dans ce chapitre 5 de Saint-Luc. Nous allons terminer par une prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pilice, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous. Je vous rappelle, avant de clore cette conférence, les retraites. Donc, je suis plein pour la retraite pascale, mais j'ai encore de la place pour les retraites du 16 au 21 mai, du 6 juin au 11 juin. Je crois que j'ai plus qu'une place pour celle-là. Du 12 septembre au 17 septembre, du 3 octobre au 8 octobre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, soit par mail sur ma boîte mail jlf.lafitte@gmail.com, soit par un coup de téléphone 06 32 01 65 16. Merci et que le bon Dieu vous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.